La prochaine fois que vous devez balayer chez vous, pensez au fait suivant. Au siècle précédent, on a découvert que la beauté et même l'existence des nuages sont dues à la présence de petites particules de poussière dans l'atmosphère. La vapeur d'eau se condense à leur contact, ce qui la rend visible sous forme de nuages. En d'autres mots, et si je comprends bien, sans ces poussières, il n'y aura tout simplement pas de pluie. Or, et bien que le prophète Nahum ne possède pas cette connaissance, il écrit « Les nuées ou les nuages sont la poussière que soulèvent les pieds de l'Éternel. » Je continue de lire dans le premier chapitre de son livre. Il menace la mer et il la met à sec. Il fait tarir les fleuves. Le Bazan comme le Carmel deviennent des déserts. La flore du Liban se fane. Nahum emprunte ces images à la Galilée qu'il connaît personnellement, puisque, de toute évidence, il est né et y a passé au moins une partie de son enfance. Il mentionne les trois endroits de Palestine où la végétation est la plus luxuriante et qui constituent les frontières d'Israël, à l'est, à l'ouest et au nord. Le Bazan est une région fertile réputée pour ses pâturages est située à l'est de la mer de Galilée et au nord-est du fleuve Jourdain. Le Carmel est une chaîne de montagnes à l'ouest de la Galilée, proche du port actuel de Haïfa, surplombant la plaine de Megiddo. Il est propice aux jardins et vergers. À cette époque, le Liban est une région très fertile au nord de la Palestine qui est célèbre pour ses cèdres, mais aussi pour ses vignes et ses fleurs. Quand on voyage de Beyrouth à l'ancienne ville de Tyr, on traverse une contrée magnifique qui, au printemps, est couverte d'arbres fruitiers et de fleurs, et au loin, on peut apercevoir la chaîne de montagnes de l'anti-Liban couvert de neige. Cependant, ces trois endroits idylliques, qui constituent alors les principaux paniers à pain de la Palestine, le prophète les voit dévastés par la violente tempête qui émane de Dieu et qui symbolise son jugement. La capacité de l'Éternel à dessécher ces régions verdoyantes. S'il le veut, et quand il le veut, prouve qu'il peut juger Ninive de la même manière et la réduire en ruine. La mer aussi, ainsi que les fleuves, desséchés, représentent aussi un jugement divin. Mais en même temps, c'est une allusion directe à la libération d'Israël de l'esclavage égyptien, un rappel très fréquent dans l'Ancien Testament. C'est en asséchant la mer Rouge, ainsi appelée aussi mer de roseaux, que l'Éternel a délivré son peuple des griffes du Pharaon. Dans le livre de l'Exode, on lit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il la mit à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Et dans le psaume 106, qui est un hymne de louange, le psalmiste rappelle que l'Éternel apostropha la mer des roseaux qu'il assécha. Il les conduit à travers les flots, comme au travers un désert. Pour bien montrer à ses disciples qu'il est vraiment, Jésus a ordonné aux éléments déchaînés de se calmer. Dans l'évangile de Luc, on lit que le Seigneur parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Suite à cet événement sensationnel, le texte dit que les disciples étaient saisis de crainte et d'étonnement, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Voyez, il commande même au vent et aux vagues, et il se fait obéir. » Jésus dispose de la même puissance et de la même autorité que l'Éternel Dieu de l'Ancien Testament. Ici, au moyen d'une description symbolique, le prophète Nahum enseigne l'omnipotence de l'Éternel, sa toute-puissance, et donc qu'il n'existe aucun refuge où l'homme puisse se protéger contre ses jugements. Dans le livre du Deutéronome, on lit que Moïse dit aux Israélites « L'Éternel, votre Dieu, est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Nahum décrit d'abord la colère de Dieu en termes généraux et l'appliquera à Ninive par la suite. Je continue le texte. Les montagnes vacillent à son approche, les collines s'effrondent, la terre se soulève devant ses pas, tout l'univers est bouleversé avec ceux qui l'habitent. Nahum décrit un tremblement de terre d'une très forte magnitude accompagné d'éruptions volcaniques. Si on y tient vraiment, on peut considérer l'Éternel comme le responsable des cataclysmes naturels qui de temps en temps font la manchette des journaux et qui malheureusement causent parfois beaucoup de dommages et font de nombreuses victimes. Par contre, on ne peut pas accuser Dieu si les gens qui ont péri ont bâti leur maison dans des zones dangereuses. L'homme a suffisamment d'intelligence et de connaissances pour savoir qu'il ne doit pas construire une ville sur une faille sismique, au pied d'un volcan, au bord d'un fleuve qui sort périodiquement de son lit, ou sur une colline qui risque de glisser suite à des pluies diluviennes. Dans ces cas-là, c'est la stupidité humaine alliée à sa convoitise qui tue. Bien que les montagnes symbolisent la stabilité, Nahum les aperçoit qui tremblent devant l'apparition de l'Éternel. C'est aussi ce qui est arrivé au mont Sinaï, lorsque la loi fut donnée au peuple hébreu. Dans le livre de l'Exode, Moïse écrit « La montagne du Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. » Tous les chamboulements que décrit Nahum sont provoqués par la nature inanimée qui est saisie d'effroi parce qu'elle partage le sort de ses habitants, qui, eux, sont terrorisés parce qu'ils sont conscients de leur culpabilité devant Dieu. Je continue le texte. S'ils se mettent en colère, qui pourra subsister et qui tiendra quand son courroux s'enflamme? Car sa fureur se répand comme un incendie, les rochers se renversent à son approche. Les deux questions de rhétorique, qui pourra subsister, qui tiendra quand son courroux s'enflamme, affirme avec force et majesté que nul ne peut résister à l'Éternel quand il déclenche ses jugements contre les hommes méchants. Dans le second livre des rois, on lit que le général du roi assyrien Sennachérib lance un défi à Ézéchias, roi de Juda, en lui demandant « Quels sont, parmi tous les dieux des pays, ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ?» Suite à cette diatribe, Sennachérib et ses minions n'ont pas tardé à découvrir de quel bois l'Éternel se chauffe, qui est le grand patron, et que sa fureur est aussi destructive qu'un incendie qui détruit tout sur son passage. Le livre de la Genèse nous donne l'exemple typique d'un tel jugement. Je lis le passage. « Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre, enflammée par un feu qui venait du ciel. De l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes, ainsi que sur toute la région. » Toute la population de ces villes périr, ainsi que la végétation. Ce feu est probablement du bitume enflammé. La question, s'ils se mettent en colère, qui pourra subsister, est d'abord adressée aux habitants de Ninive, mais elle est aussi d'actualité pour nous, pour vous et pour moi. En effet, un jour nous devrons comparaître devant Dieu, et être jugé. Alors, comment celui qui ne possède pas Jésus comme sauveur subsistera-t-il dans la présence du Dieu trois fois saint, et qui a le péché en horreur, et qui a bien l'intention de le juger. Beaucoup pensent naïvement qu'ils sont au moins aussi méritants que leurs voisins, et donc qu'ils n'ont pas de soucis à se faire. Mais ils sont grandement dans l'erreur. L'auteur anglais C.S. Lewis, qui est surtout connu pour avoir écrit « Les chroniques de Narnia », a composé bien d'autres histoires. Dans l'une d'elles, il raconte un voyage très particulier, puisqu'il s'agit d'un autobus qui se rend du séjour des morts au paradis. Comme on aurait pu s'y attendre, il est plein à craquer. Une fois arrivé, le conducteur dit au voyageur « Nous retournons chez nous, c'est-à-dire en enfer, à 16 heures. À l'heure dite, le car est plein. Il ne manque pas une âme. » Alors le conducteur dit « Ceux qui veulent rester peuvent le faire. » Personne ne bouge. Pourquoi donc? Tout simplement parce que les voyageurs portent encore leur péché, ce qui les met particulièrement mal à l'aise au paradis. Si vous mettez devant un porc une surface bien propre et un trou de boue, lequel pensez-vous qu'il va choisir? Je continue le texte de Nahum. Mais l'Éternel est bon. Il est un sûr-abri au jour de la détresse, et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Cette brève déclaration interrompt abruptement la description de la colère de Dieu. Cette colère n'est pas une force aveugle qui ravage tout sur son passage sans distinction. L'Éternel connaît les siens, et il est lui-même pour son peuple un abri, un rempart, une forteresse au milieu de la tourmente. Dans sa seconde lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit « Le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte, en guise de sceau, les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » La population mondiale a dépassé les 7 milliards d'individus. Au milieu de cette masse humaine, je ne suis qu'une petite poussière de rien du tout. Si on considère qu'il y a entre 200 ou 300 millions de personnes qui appartiennent à Dieu, je suis toujours une petite poussière, et je pourrais me dire « J'espère que Dieu ne m'oubliera pas. » Mais c'est tout à fait impossible parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il me connaît et il a l'œil sur moi de façon à ce que je ne me perde pas en cours de route. L'Éternel est bon et un axiome universel. Dans le psaume 107, le psalmiste écrit « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Dieu est bon pour tous ceux qui lui font confiance. Cette bonté s'exprime par sa fidélité et sa miséricorde. Tôt ou tard, le malheur atteint chacun de nous parce que ça fait partie de notre condition de pécheur. Mais celui qui a placé son espérance en Jésus-Christ trouve en lui un refuge et le réconfort dont il a besoin pour continuer sa route. Le prophète Jérémie écrit « Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge, au temps de la détresse. » Les habitants de Ninive se croient en sécurité dans leur ville fortifiée, mais c'est pure illusion, un mirage, car Dieu est furieux contre eux, comme il l'est d'ailleurs contre tous ceux qui s'opposent à lui. Or, il n'est pas nécessaire de lever le poing au ciel pour être son ennemi. Il me suffit de ne rien faire, de l'ignorer, de me conformer à ma nature première qui est en révolte contre le Créateur et d'agir comme bon me semble. Tous ceux qui sont indifférents à ce que Dieu demande sont des rebelles. C'est vrai pour le dernier des mécréants, mais aussi pour celui qui est religieux jusqu'au bout des ongles. Je peux bien aller dans un lieu de culte tous les jours, au milieu de la nuit, en marchant sur les genoux, mais ça ne me servira à rien parce que ce n'est pas ce qui changera ma nature de rebelle, ni ce que Dieu demande. Je peux construire une cathédrale avec mes propres deniers, peindre des tableaux magnifiques au plafond d'une église, travailler des années à sculpter un personnage biblique, écrire de la musique sacrée et faire les plus grands sacrifices pour Dieu. mais aucune de ses bonnes actions ne m'ouvrira la porte du paradis. Il faut accepter que Dieu ne me demande rien, aucune contrepartie, avant de me recevoir dans son royaume. C'est trop facile, me direz-vous. Oh que non, car c'est bien là que le bât blesse, parce que cette démarche est très humiliante. Les hommes préfèrent nourrir leur orgueil en marchant la tête haute, et même sur la tête s'il le faut, tant qu'ils n'ont pas à courber l'échine devant leur Créateur. Les deux brigands qui ont été crucifiés avec Jésus étaient de vulgaires criminels. Celui qu'on appelle le bon larron ne devrait pas être très assidu à la synagogue et n'avait probablement pas accompli grand-chose pour Dieu. La seule bonne œuvre qu'il a faite et la meilleure qu'un être humain puisse faire a été de remettre son âme au Seigneur en lui disant « Je suis un criminel. Je sais qui tu es. Souviens-toi de moi. » Le grand et seul accomplissement de la vie de cet homme a été de se jeter aux pieds du Seigneur, pour ainsi dire, et d'implorer sa miséricorde. C'est tout, rien d'autre. Quelques heures plus tard, il est mort, et il est allé tout droit au paradis. Je continue le texte de Nahum. Par un flot qui déborde, il, l'Éternel, détruira Ninive totalement, et il repoussera ses ennemis dans les ténèbres. Un flot qui déborde a deux significations. Tout d'abord, cette expression est une métaphore qui représente une invasion ennemie. C'est ainsi que les prophètes Ésaïe, Jérémie et Daniel décrivent respectivement l'armée assyrienne submergeant le royaume de Juda, l'armée du Pharaon envahissant le territoire des Philistins et les guerres qui caractériseront la fin des temps. En second lieu, un flot qui déborde décrit littéralement ce qui s'est passé et a contribué à la chute de Ninive. En effet, selon plusieurs historiens antiques, c'est en l'an 614 avant Jésus-Christ que les armées des Mèdes et des Babyloniens arrivent dans la plaine de Ninive. Elles doivent tout d'abord livrer deux batailles contre l'armée assyrienne qu'elles massacrent. Ensuite, elles font la conquête des villes fortifiées des environs de Ninive avant de faire le siège de la capitale. Elles concentrent leurs attaques sur le nord-ouest des murailles de Ninive parce que c'est là que se trouve la vanne de régulation d'un affluent du fleuve Tigre, appelé Koser, qui pénètre dans la ville et la traverse en faisant une boucle autour du palais royal. Cela dit, et humainement parlant, Ninive est imprenable car très bien protégée par 13 kilomètres de remparts munis de 15 portes fortifiées. Et en plus, elle est entourée d'un fossé de 45 mètres de large. Voyant cela, pourrait-on dire, Dieu vient prêter main forte aux assaillants. Il déclenche des pluies diluviennes qui gonflent le Koser et le Tigre. Ce dernier se jette alors avec furie contre les fortifications du nord de la ville et les renverse, ce qui ouvre Ninive aux assaillants qui s'en emparent et la pillent avant de la réduire en cendres. L'expression « l'Éternel repoussera ses ennemis dans les ténèbres » signifie qu'il les fera disparaître de la surface de la terre. Or, c'est exactement ce que rapportent les inscriptions assyriennes concernant la défaite d'un roi. Elles se terminent par « et depuis, personne n'a jamais plus vu une trace de lui ». Le jugement qui a frappé Ninive et l'Empire assyrien n'a pas été une épreuve passagère qui fut suivie par un temps de répit, car leur ruine fut complète et définitive. Dans les Écritures, l'affirmation « l'Éternel repoussera ses ennemis dans les ténèbres » est une signification encore plus sinistre que la précédente. Dans son évangile, Matthieu rapporte qu'à trois reprises, Jésus compare le jugement éternel aux ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Imaginez être seul avec vous-même dans le silence absolu et dans le noir le plus opaque, tandis que vous êtes rongé par le remords pour l'éternité. Vous regretterez amèrement tous les péchés qui défilent sans arrêt devant vous, et par lesquels vous avez offensé le Dieu trois fois saint. Il s'agit de toutes les actions mauvaises que vous avez commises et qui sont condamnées par la loi morale, ainsi que les bonnes actions que vous n'avez pas voulu faire. Pour ce qui est de ces fautes-là, je suis dans le même bateau que n'importe qui, à la différence que j'ai placé ma confiance en Jésus et en sa mort sacrificielle sur la croix pour moi. Le pire des jugements sera le rejet incommensurable qu'éprouveront pour l'éternité ceux qui n'auront pas voulu entendre l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, ou qui, l'ayant entendu, ont refusé son offre de salut. Je continue le texte de Nahum. Que pensez-vous de l'Éternel? C'est lui qui, l'auteur de destruction totale et la détresse, ne reparaîtra pas une seconde fois. La question est adressée autrement aux Israélites qu'aux Assyriens. Parce que, au moment de la prophétie de Nahum, les Assyriens sont les maîtres absolus du Moyen-Orient. Nul n'aurait pu se douter qu'ils mordraient la poussière d'une façon complète et irréversible. Mais comme chacun sait, les apparences peuvent être trompeuses, surtout quand on sait que le Seigneur fait exactement ce qu'il dit et nul ne peut l'en empêcher. La déclaration « L'Éternel est l'auteur de destruction totale » confirme ce que Nahum a déjà dit, c'est-à-dire que « il détruira Ninive totalement ». Cette répétition est une façon d'affirmer avec certitude que la fin de Ninive est arrêtée et qu'elle aura bien lieu. La détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. C'est une promesse adressée aux habitants de Juda qui ont souffert de l'invasion assyrienne sous le régime de Manassé. En effet, dans la quatrième année de son règne, Ésar Adon conquit la plus grande partie de la Palestine, et parmi les vaincus se trouvait Manassé, roi de Juda, parce qu'il est accusé de complot contre la Syrie. Cette attaque est en fait un jugement de Dieu contre Juda à cause de l'attitude abjecte du roi et de ses grands qui se livrent à une idolâtrie grotesque et à d'horribles crimes de sang. Certes, ils ont bien mérité l'attaque assyrienne, mais malgré tout, l'Éternel assure son peuple que cette invasion qu'il a subie est la dernière. Il est réconfortant de savoir que malgré nos fautes, Dieu agit à notre égard selon sa grande miséricorde.